Bien, bonjour. Je m'appelle Carole Desbarrages. Je vous présente rapidement le déroulement de cette table ronde jusqu'à donc 11h30. Première chose, je vais vous débarrasser de moi, je vais me présenter, comme ça ensuite je pourrai m'effacer derrière mes intervenants. Les intervenants, eux, ont convenu qu'à la fois ils allaient parler bien sûr du lieu dont ils venaient, mais également qu'il y aurait un dialogue. Et bien sûr, on laissera du temps pour que vous puissiez intervenir, vous, depuis la salle, et poser les questions que vous souhaitez poser. Alors, premièrement, je commence par abattre mes cartes. Ma carte personnelle de la bibliothèque François Truffaut, à Paris, sans laquelle je pense que la plupart de mes articles seraient vraiment très maigres. Ensuite, pour me présenter, en dehors du fait que je fais partie de l'équipe de École et Cinéma, les enfants de cinéma, ce qui fait donc, j'imagine, que je suis invitée à modérer cette table ronde, parce que c'est vrai que nous travaillons à École et Cinéma avec les bibliothèques, les médiathèques. En dehors de ça, je voudrais juste rembourser une dette. J'ai vécu au Maroc, et dans les années 60, il y avait à Casablanca un centre culturel qui doit d'ailleurs exister encore, peut-être qu'il s'appelle autrement, il s'appelait le Centre culturel français. Et moi qui avais 10 livres dans la maison, glorieusement rangés sous la radio, dont 3 recueils du Sélection Reader's Digest, ça vous dit le niveau des livres qu'on avait à la maison, ça a changé depuis. Eh bien, je fréquentais cette bibliothèque avec un très grand bonheur, j'y ai fait ma culture et surtout, en 1963, tenez-vous bien, il y avait chaque semaine un cours qui s'appelait « Apprendre à voir », qui était fait par quelqu'un qui avait fait l'IDEC. Et il se trouve que depuis, j'ai travaillé dans l'école qui a succédé à l'IDEC, qui est la FEMIS. Et j'ai une dette énorme à l'égard de ce lieu. Des bibliothécaires qui m'ont accueilli avec une bienveillance absolue, voyant une gamine qui ne savait pas par où commencer et qui lisait des panoramas de la littérature européenne de A à Z, et qui me disait « mais quand même, si vous lisiez un roman en entier, ce serait bien, hein, c'est peut-être mieux que ça ». Et puis surtout, ces cours de cinéma dans lesquels j'ai découvert que si Jacques Becker avait mis sa caméra orientée du bas vers le haut dans Goupil Main Rouge, c'est qu'il cherchait à produire une certaine sensation, une certaine émotion. Je me revois encore dans le fauteuil rouge. Quelque chose est tombé sur moi qui n'est toujours pas parti. C'est l'idée que le cinéma peut apporter du sens, de l'émotion et du sens mêlé à l'émotion. Et je pense que j'ai consacré ma vie à la question de la transmission, que ce soit avec les enfants, les adultes, les futurs professionnels. Et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Assez parlé de moi, je disparais. Juste une chose. Pour préparer cette table ronde, je me suis posé des questions, effectivement, quelles sont les questions qui peuvent intéresser le public, puisque vous êtes à la fois des bibliothécaires dans cette salle et aussi des directeurs de bibliothèques. Et comme tout directeur d'une grande maison, vous ne savez pas tout ce que fait votre personnel. Donc justement, l'idée, ça pourrait être de donner un aspect, et c'est ce que m'a demandé Marianne, de la diversité du travail des bibliothécaires. Nous allons faire ça ensemble. J'ai visité, comme ça, par hasard, une médiathèque, il y a 15 jours, à Pornichet. J'étais à Pornichet. Je me suis dit, voyons la médiathèque de Pornichet. Pornichet, 7000, 8000 habitants. Un lieu extrêmement agréable, bien conçu architecturalement, avec des ouvertures sur des arbres, beaucoup de monde, beaucoup de calme, des livres au rez-de-chaussée, des DVD, des CD au premier étage où j'ai été reçue par une certaine Virginie formidable, dont on m'a dit depuis qu'elle était connue d'École et Cinéma à Paris, parce qu'elle faisait un très bon boulot, c'est vous dire les liens quand même, effectivement, qui m'a expliqué que justement, elle faisait partie de ces médiathécaires qui régulièrement organisaient, avec les enseignants avec qui elle travaillait, des rencontres autour des métiers du cinéma. Alors elle fait comme elle peut, parce qu'elle n'a pas de professionnel du cinéma dans le coin, donc elle se sert d'outils pédagogiques, et j'ai vraiment l'impression qu'elle fait du très bon travail. Je me suis dit, voilà, il faut prendre conscience de ça. Nous avons en France la chance d'avoir un terrain très innervé, où les gens viennent dans des lieux ouverts, consulter des livres, emprunter des DVD, se familiariser avec cet art qu'est le cinéma, et justement ça rend tout à fait logique l'objet de cette journée et en particulier de cette table ronde que je ne sais pas lequel d'entre vous a eu le bon goût d'appeler cinéma. Ce que je trouve très bien, c'est vous, voilà. Cinéma, cinéma étant, vous le savez probablement, le nom d'une magnifique émission de télévision qui a disparu, mais qu'on retrouve en coffret, donc je suis sûre que ces coffrets figurent dans les bonnes médiathèques, qui sont à chaque fois des petits sujets de 3, 4, 5 minutes, faits par, sous l'égide de Samuel, d'André Labarthe, pardon, et qui sont d'une intelligence absolue. On a rarement fait mieux en pédagogie du cinéma. Et bon, nous allons essayer d'être à la hauteur de ce parrainage. Alors, parler du cinéma dans les bibliothèques, c'est essentiel, vous avez bien raison, parce que le voisinage littérature et cinéma devrait être normal. Il est normal pour les artistes, il est en train de le devenir pour le public. Et c'est vrai ce qui a été dit par Marianne Pallès sur le rôle du cinéma. Comment le cinéma peut nous ouvrir à l'altérité ? Comment il peut nous faire ouvrir notre horizon vers l'ailleurs, effectivement, grâce à des fictions, que les fictions soient des fictions pures ou des fictions de documentaires, elles ont leur place pour justement ouvrir l'empan et faire que nous soyons, surtout en ce moment, plus bienveillants à l'égard du monde extérieur. Ce rôle-là, il incombe entre autres aux médiathécaires, mais c'est vrai qu'il incombe aux enseignants et que il y a une logique aussi à ce que dans les salles de cinéma, il y ait un travail qui se fasse sur ce terrain-là. Donc je ne suis pas étonnée de savoir que la table ronde d'après va justement parler du rôle des salles de cinéma dans le rapport aux bibliothèques. Donc nous avons autour de la table, et j'ai pris l'ordre qui m'a été donné, donc messieurs, dames, je ne vous connais pas, je vais faire connaissance. Donc Gilles Guidin de Valrhin, qui est-ce ? C'est vous, monsieur. Bonjour. Alors donc vous, bonjour, vous vous occupez de la grande médiathèque de Montpellier. Elle est du côté d'Antigone, elle est située du côté d'Antigone,
oui,
c'est ça ?
La médiathèque centrale, les médiathèques centrales se trouvent du côté d'Antigone, oui. C'est un réseau de 14 médiathèques.
D'accord. Et est-ce que la structure dont vous occupez fait du prêt ou est-ce qu'elle gère les 14 médiathèques ?
Alors moi, je dirige l'ensemble des 14 médiathèques, mais on fait du prêt, comme je l'ai expliqué, on fait un peu de tout, quoi.
Peut-être un peu de tout.
Mais un peu de tout, mais en essayant quand même de faire aussi de la qualité.
Oui, et dans ce un peu de tout, vous avez une bibliothèque, alors ça m'a impressionné, numérique de référence.
Voilà.
Vous nous dites ce que c'est exactement ?
Mais c'est un label du ministère de la Culture. Je crois qu'actuellement, il doit y avoir à peu près une quinzaine de bibliothèques qui ont ce label. C'est en fait, ça concerne aussi bien le jeu vidéo, le patrimoine numérisé, des ateliers créatifs. C'est un label donc lié à vraiment à tous des projets qui sont accordés par le ministère de la Culture. Et avec aussi, ce qui n'est pas désagréable, des subventions pour les mettre en place.
Bien, bien, bien.
Donc on remercie le ministère.
Alors Jean-Baptiste Mercier.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes dans l'Aveyron.
Absolument.
Après Buenos Aires, c'est le Congo-Brazzaville, vous êtes dans l'Aveyron.
Oui.
D'accord. Et vous vous occupez, et c'est très important, des bibliothèques rurales.
Oui, des bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants, c'est-à-dire la majorité des communes en Aveyron, bien sûr.
Et alors, vous êtes à Rodez ou à Millau ?
À Rodez.
Vous êtes à Rodez. Et donc, si je prends un exemple, je prends Millau, 70 km de Millau, la Couvertoirade sur le Larzac,
oui.
Et 15 km de la Couvertoirade, les Rives, célèbre pour son lac, 100 ou 200 habitants. Comment, si je suis habitante des Rives, ai-je accès aux livres ou aux DVD ?
Dans un village voisin, qui est Cornus, vous allez trouver une petite médiathèque qui propose des livres, des DVD, et qui est accompagnée par la BDP de l'Aveyron, où je travaille, à travers des prêts de documents, notamment de DVD, pour ceux dont je m'occupe, et qui est conseillée aussi pour ces projets d'aménagement par la BDP, et dont le personnel est formé par la BDP. Et dont certains projets d'action culturelle peuvent être proposés par la BDP.
D'accord. Alors, Éric Mallet, vous peut-être, bonjour. Bon. Alors, vous êtes passé par le CNC, si je ne me trompe pas.
Oui, mais c'est
très
court. Je suis un ancien comptable, en fait, expert comptable, qui a tout plaqué.
Vous avez
bien travailler, oui, tout à fait. Pour travailler au CNC, au centre de documentation, ça a été la passerelle entre... Parce que je m'occupais un petit peu de tableaux financiers aussi, dans le centre de documentation. Ça a été la passerelle entre la comptabilité et le cinéma, si je puis dire. Et ça m'a ouvert la voie vers la lecture publique. Je suis très content. Une petite parenthèse, moi, l'appellation de cette table, cinéma m'a donné un peu une angoisse, parce que j'ai les trois dernières années de l'émission qui sont encore sur VHS, que je n'ai pas transféré en numérique. Voilà, donc si Jean-Yves, tu connais, voilà, pour transférer, parce que c'était vraiment une émission à Nandreux, c'est vraiment une émission qui introduisait culte et passion et qui m'a donné le goût du cinéma. Voilà.
Je vous suggère une chose, achetez le coffret.
Oui, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout.
Non, mais alors là, voilà, c'est
y
ça.
Pas tout.
C'est tout de suite perfectionniste. Bon, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous occupez d'un palais de la médiathèque.
Oui, ça, bon, ça, voilà, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Ah, plutôt, voilà, c'est un royaume, il y a beaucoup de palais. Mais bon, ça, fermons la parenthèse. D'accord. Moi, je suis dans le palais, c'est ce qui compte.
D'accord, on reviendra vers vous. Alors, Niaya Serendenat, vous êtes vous à Conflans-Sainte...
Oui, c'est moi.
C'est vous, oui, pardon, vous êtes trop près. Conflans-Sainte-Honorine, oui. Effectivement. Et donc, vous êtes dans une médiathèque qui s'appelle Blaise Cendrars.
C'est Michel Rocard qui avait décidé de construire une médiathèque parce que ça manquait à Conflans. On avait une toute petite structure au dernier étage du musée. Et voilà. Et c'est lui qui a choisi Blaise Cendrars, l'écrivain voyageur.
Dont des très beaux livres ont été adaptés au cinéma. Oui, donc oui. Là, on est en plein dans le sujet. Juste pour vous chiner un petit peu, sur votre site, il y a un bandeau dès qu'on arrive sur le portail. Avec Madame Sophie Deporte, cinquième adjointe de la culture, qui a mis son portrait.
Je ne suis pas allée voir.
Ah, je vous le dis. C'est étonnant. On se dit, bon, peut-être que cette dame a fait du très bon travail, après tout, mais c'est drôle de voir ça avec le ruban de la République. Et effectivement, et le portail. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement. Corinne Japin, donc on va terminer par vous. Vous êtes chargée de collection et de médiation cinéma à la bibliothèque Jean Falala de Reims. Jean Falala ?
Alors, pas que Jean Falala. En fait, je travaille même essentiellement à la médiathèque Croix-Rouge, qui, donc, comme son nom l'indique, porte le nom du quartier Croix-Rouge. C'est un quartier sensible, en fait, de la ville de Reims. Et c'est vrai que pour ce qui concerne les animations, j'ai des missions qui sont réseau. Et donc, voilà, je suis appelée à intervenir aussi sur la médiathèque Jean Falala. Mais voilà, je suis essentiellement à la médiathèque Croix-Rouge.
D'accord. Juste sur votre catalogue, j'ai regardé vos nouveautés. En numéro 2, il y a le guide pratique de dentelle à l'aiguille. Et en numéro 3, un film de Walter Salles sur Jiazanke. Je me suis dit, c'est ça, les médiathèques. Il faut pouvoir répondre à la fois aux cinéphiles pointus pour qui Jiazanke, ça compte vraiment, et puis à la personne pour qui l'histoire de la broderie, ça a du sens
tout
aussi. Et c'est quelque chose. Je voudrais signaler, justement, sur votre site, et on y reviendra, hein, une petite vidéo, ou des petites vidéos, une en particulier, qui a été faite par les enfants dans le cadre, et vous nous en parlerez certainement, de Fais ton petit cinéma.
Alors, ça c'est une autre collègue qui met cet atelier-là en place.
Ah, c'est une collègue, mais vous nous en parlerez quand même, parce que c'est formidable. Oui. Il y a quoi dans la boîte ? Ça dure 2-3 minutes, et c'est de la stop motion, classique. Hein. Vous faites une image, vous arrêtez, vous reprenez une après. C'est une façon de faire de l'animation avec des moyens limités et sans trop d'argent, mais avec beaucoup de temps. Et c'est l'histoire de petites boules de couleurs qui s'échappent d'une boîte de film et qui y reviennent après. Et je me suis dit, vaudrait le coup de faire d'analyse de film qu'ont idéologiquement à dire ces petites boules qui sortent, s'échappent, s'animent et reviennent dans une boîte. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement ? Mais bon, c'est une façon aussi de dire qu'on peut aussi avoir beaucoup de choses à faire à partir des travaux des enfants. Mais reprenons depuis notre tour de table, et puis effectivement, partons de vous et de Montpellier, donc monsieur de Valrhin. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour caractériser votre travail ? Vous avez très peu de temps, comme chacun d'entre vous. Je vous l'avais dit, je vous ai écrit, j'ai été comminatoire en disant « je vous empêcherai de parler longtemps » et je le ferai.
Très bien. Vous nous avez accordé 10 minutes, je crois, si je me souviens bien.
Oui, oui, oui. Maxime.
Merci, madame.
Merci.
Alors, au niveau de cette table ronde qui porte sur les collections et les animations cinéma, je crois que pour que celle-ci soit visible et mise en valeur, il faut un écrin, c'est-à-dire des espaces. Je crois qu'on ne peut pas ne pas parler des espaces lorsqu'on parle de cinéma aussi. Et bien sûr, des espaces sans la mise en valeur, sans la valorisation, ça n'a aucun sens non plus. Donc, c'est un petit peu les deux parties de mon intervention. Alors, des collections et des espaces adaptés, déjà dire qu'en raison de l'existence du Festival du cinéma méditerranéen, le cinéma et la vidéo constituent depuis 1987-1995 un point fort du réseau montpelliérain de lecture publique, que je ne devrais pas retracer l'historique, mais en tout cas, je pense qu'il faut l'indiquer. Lorsqu'on a réalisé la bibliothèque municipale à vocation régionale en 2000, on a consacré un bâtiment spécifique qui était consacré au cinéma, la médiathèque centrale Fellini, et la deuxième partie à 200 mètres, donc la médiathèque centrale Émile Zola. Dans le cadre des collections, il y a eu tout un travail qui avait été fait sur la diversité des collections, en liaison avec aussi le prestigieux festival de danse. Donc autant on avait des livres sur la danse, on avait aussi bien sûr beaucoup de choses sur la danse, de même avec le centre chorégraphique. Donc on a été déjà, puis bien sûr, avec le festival méditerranéen. Donc le documentaire a été très présent dès le début. Mais la fiction aussi, parce que contrairement à d'autres réseaux, grâce, il faut bien le dire, à l'époque à M. Pithiaud, et qui était à l'époque indépendant de la bibliothèque, on mettait en valeur de la fiction alors que ce n'était pas la norme dans les bibliothèques. Donc on a essayé de tirer, et ça a été un petit peu ce que j'ai fait, le fruit de deux histoires et de les réunir et d'en tirer les deux bénéfices, c'est-à-dire le documentaire et la fiction. Et alors, au niveau des collections, voilà ce qu'on peut dire. Il y a maintenant des évolutions, donc, mais sans ces évolutions, on peut dire que la consultation demeure importante, hein, mais bien sûr, le prêt est fondamental. Donc, on ne peut pas centrer que sur la consultation sur place. Donc, on a réduit la consultation sur place tout en lui gardant une importance extrême et en développant beaucoup plus la consultation collective, la consultation individuelle progressivement. Et je crois que c'est ce qu'il faut aller dans les années à venir, tout en conservant la consultation individuelle. On peut dire que le prêt, la consultation sur place dans une médiathèque, c'est un peu la 15e médiathèque du réseau. Ça joue vraiment un rôle extrêmement important. Alors, en plus, l'évolution récente, ça finira la première partie sur les espaces, c'est qu'il y a maintenant un espace, j'allais dire, virtuel, c'est-à-dire l'offre classique. Maintenant, il y a évidemment les abonnements, l'élimination avec Arte VOD, avec tout ce qui est numérique. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important, puisque ça prolonge les lieux, même si on sait qu'il faudra dans les lieux les mettre en valeur. Et donc, il faudra aussi du physique pour que ces abonnements soient importants. Et puis, je crois que dans une médiathèque, d'une ville et d'une métropole importante, je crois qu'aussi, il faut aller vers la négociation avec les ayants droit. C'est ce qu'on a fait à Montpellier. Depuis 2012, on a négocié avec des sociétés pour acheter des droits de films documentaires sur des supports Umatix, Beta SP et VHS. Et vous allez voir que j'en parlerai, je peux déjà en parler maintenant. On est passé maintenant à l'étape supérieure. On vient de négocier la mise en ligne de ces films en achetant les droits. Et c'est ainsi qu'il y a donc sur notre site 295 films qui ont été numérisés avec 22 sociétés. Et donc on peut dire qu'il y a à la fois une médiathèque qui est physique et une médiathèque qui est virtuelle. Mais en sachant que même si on a une médiathèque spécialisée sur le cinéma, chaque médiathèque a un espace cinéma et dans les autres médiathèques, même quand elles ne sont pas spécialisées. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a des lieux, mais il faut les animer, et ça, c'est vraiment important. Il y a un groupe de travail au niveau du réseau, puisqu'en fait, c'est un réseau qui comprend quand même 14 bâtiments, 30 000 mètres carrés, 300 personnes. Donc, il y a un groupe de travail spécifique qui planche sur l'animation du cinéma. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des partenariats. Il y a des partenariats avec des cinémas, avec tous les cinémas. Il n'y a pas de partenariat privilégié. Exception faite, il y a un cinéma municipal qui s'appelle Nestor Buma. Mais évidemment, comme il est municipal, on travaille très fortement avec lui. Là, il n'y a pas de problème de concurrence.
Pardon, vous voulez dire que vous avez un partenariat avec les salles d'art et essai et les circuits, c'est
ça? Voilà, on essaie d'avoir des partenariats, pas qu'avec un, quand c'est privé, mais en revanche, quand c'est évidemment un service public, là, on a un partenariat privilégié. On essaie justement d'avoir un certain équilibre. Alors, bien sûr, on participe depuis le début au mois du film documentaire, parce que ça, c'est très important. Ça sera la 18e édition en 2017. Mais ce qui est plus spécifique, c'est que la médiathèque centrale contribue à la création depuis 2001 et participe au prix Ulysse du Cinémed. Alors, il participe de différentes manières. On présélectionne les films. Il y a un agent qui présélectionne les films, même si on ne fait pas partie du jury. On diffuse ces films, c'est-à-dire celui qui est sélectionné, le prix Ulysse. Il y a 3-4 dans plusieurs médiathèques. On présente ce film. Ensuite, il y a aussi des liens avec l'université Paul Valéry, ce qui est très important, où on donne en fait des cartes blanches à des étudiants, et c'est eux-mêmes qui organisent leur programmation documentaire. Donc c'est une sorte d'exercice, mais leur programmation est présentée au grand public. Donc c'est un partenariat très intéressant. Ensuite, il y a d'autres partenariats, je ne vais pas tous les citer, je vais en citer un troisième, avec les groupes, avec les hôpitaux, pour découvrir le cinéma documentaire. Depuis plusieurs années, deux groupes d'hôpitaux de jour visionnent une fois par semaine des films documentaires. Cet accueil hebdomadaire au thème du film documentaire fait donc une partie intégrante de leur programme de thérapie, c'est-à-dire le cinéma, la musique pour se soigner, le cinéma pour se soigner. Je pense que la littérature aussi et l'imaginaire peuvent aider à se soigner, mais je pense que l'ensemble est encore mieux. Ça fait un meilleur cocktail pour être soigné. Et nous avons effectivement un autre partenariat, je ne cite pas tous les partenariats parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai choisi quelques-uns, avec l'INA, puisqu'on a les deux postes, on était la première bibliothèque à avoir les deux postes de l'INA, et ça je pense que c'est très important pour les partenariats avec l'université, il faut le développer davantage, et je pense que c'est encore très peu connu qu'on a là vraiment une source incroyable pour l'histoire, pour la littérature. Moi, j'ai écrit un livre sur Léo Mallet. C'était la croix et la bannière pour arriver à voir les films. Il fallait à Paris, il fallait se promener, il fallait demander. Là, vous avez pratiquement tout à distance. Il faut simplement être abonné. C'est gratuit, oui, c'est gratuit. C'est un arrêté, un décret. Et vraiment, je crois que c'est encore méconnu et c'est vraiment une évolution très positive de l'INA. Et on organise avec eux aussi des séances de films sur des thèmes. Ça peut être très bien l'urbanisme à Montpellier, où on voit les premières images de Montpellier. On voit comment la ville dans les années 60 était essentiellement militaire, avec les défilés, comment elle a évolué. Enfin, on peut voir aussi sur les littératures. C'est vraiment une source extraordinaire. Alors, on a, bien sûr, dans les partenariats, je ne vais pas tous les décrire, je pense qu'il est important, c'est la place de la jeunesse. Et dans l'histoire Montpellier-Rennes, j'allais dire le positif, c'est que très tôt, on a, tout en sacrifiant pas le documentaire, on avait vraiment, dès le début, fait une très grande place à la fiction. Je pense qu'au début, on avait un peu sacrifié les enfants. Et depuis des années, là, on a réintroduit des enfants. Il y a des séances régulières avec les enfants depuis que je dirige cette médiathèque. Je pense qu'il faut à la fois de la qualité. Il faut, j'allais dire, du luxe pour tous, comme disait Chemetov pour l'architecture. Je pense qu'il faut être très exigeant, mais aussi, et puis une diversité extraordinaire. Alors, pour finir, je pense que ça va fusionner les deux parties, c'est-à-dire à la fois les espaces, à la fois la valorisation. On a un nouveau projet pour une meilleure mise en valeur des collections et des services qui sera un petit peu le prolongement de la fusion de ces deux politiques que j'ai essayé d'expliquer, tout en ne revenant pas, j'aurais pu revenir comme vous sur l'historique, je suis assez d'accord à ce que vous avez dit, etc., puisque je l'ai vécu, mais d'une autre façon. Mais enfin, je pense que c'était intéressant ce que vous avez dit. Alors aujourd'hui, les espaces de la médiathèque Fellini, donc qui est le département Images en mouvement, apparaissent inadaptés tant à travers leur organisation fonctionnelle, puisque c'est un bâtiment avec des espaces éclatés qui au départ n'avaient pas été construits pour une médiathèque. C'était une salle de sport qui devait être dans cet endroit-là. Il y a deux ailes. En plus, c'est dans un centre commercial, donc c'est très bien situé, mais ce n'est plus inadapté. On sait qu'il faudrait faire des très grands travaux, etc. C'est pourquoi un projet d'intégration des services de Fellini au sein de la médiathèque Émile Zola va être réalisé en 2018-2020 en intervenant sur 2251 m² des 15700 de cette médiathèque centrale. Quand je vous dis, c'est une nouvelle puisque le projet a été validé en conseil de métropole ce 17 mai dernier par le conseil et les élus. Donc il vient d'être lancé. Il s'agit d'un projet qui porte la valorisation du cinéma en son cœur. C'est ainsi qu'une mezzanine de 650 m² entièrement dédié au 7e art est prévu. Donc on conserve quand même l'idée qu'il faut vraiment ne pas tout dispatcher. On est plutôt, nous, pour quand même conserver vraiment un noyau dur, même s'il y en aura une partie qui va être dispatchée, puisqu'on va le dispatcher sur 2000 m². On va réorganiser une grande partie du programme de la BMVR. Mais il y aura quand même un noyau avec 650 m². Ce plateau rassemblera les documents tout support sur le cinéma de tous les âges, DVD, CD, livres et périodiques sur l'INIMA, affiches, des postes d'écoute de musique de film, des postes de visionnage individuel ou en petit groupe très confortables, des postes pour consultation des archives de l'INA et une salle de projection complémentaire du grand auditorium. On a actuellement un grand auditorium qui sert aussi de salle d'exposition. Elle sera transformée en salle de conférence et de cinéma de 200 places. Et on devrait avoir trois auditoriums puisqu'on pense qu'il faut multiplier les conférences et les séances de cinéma. Où de cette salle fera utile pour l'accueil des groupes, donc je l'ai dit, le grand auditorium de 100 places. Il y aura aussi une salle de jeux vidéo. On a déjà une salle de jeux vidéo, mais dans des locaux pas très adaptés, qui fait déjà 200 m² à Fellini. Celle-ci sera modernisée dans un lieu plus adapté et en revoyant Parce qu'en fait, ce qui est dramatique quand on négocie les budgets, c'est que ce domaine-là évolue tellement vite que, bah, oui, 5 ans, c'est déjà, j'allais dire, antidéluvien souvent. C'est un peu dramatique dans les périodes où les budgets sont compliqués. Mais enfin, donc ça sera aussi l'occasion de revoir un certain nombre de choses, même pour les jeux vidéo, même si on fait effectivement déjà beaucoup de choses. Alors ce projet donc, s'intègre vraiment dans une médiathèque centrale où là l'intérêt c'est que ça, le public il n'ira pas aller dans deux lieux parce que là actuellement même si on avait bien séparé, c'est-à-dire il n'y a pas de livre de cinéma actuellement dans la médiathèque centrale Zola, la musique de film est à Fellini donc on n'avait pas séparé ça entre les supports, mais quand même pour le public, il y avait une partie du public qui allait aux deux mais il y a une partie qui n'allait pas aux deux. Hein. Donc là ça permettra de résoudre ce problème. En revanche on garde les acquis, c'est-à-dire importance du documentaire, importance de la fiction, importance de l'animation, un lieu quand même spécifique, on ne partage pas tout en mettant, etc. On ne croit pas du tout aux documentaires qu'on met à côté des rayons, etc. On n'y croit pas du tout. Hein. Mais on peut en discuter, bien sûr, mais on n'y croit pas, nous, ce qui nous concerne. Mais en revanche, on immerge pour qu'il y ait un dialogue beaucoup plus fructueux entre les différentes parties, parce que quand on est dans un même lieu, et tout ça reste une tête de réseau, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ou deux salles de cinéma dans des médiathèques, par exemple à Pérol, on a une salle de 80 places où on peut faire des séances collectives, je ne vais pas tous les citer, et on a à chaque fois quand même des lieux. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur ce projet cinéma. J'ai un peu insisté sur les nouveautés, puisque c'était un plaisir de l'annoncer, bien sûr. Merci.
Écoutez, vous êtes à la tête d'un vaisseau amiral, là. Si je repense à ma petite médiathèque de Pornichet, c'est vraiment très bien, ça montre la variété. Moi, j'aimerais vous poser une question sur le lien que vous avez fait, semble-t-il, mais peut-être que mes informations ne sont pas bonnes, entre le cinéma et les jeux vidéo.
Alors, si vous voulez, moi, je crois depuis bien longtemps que la distinction qui a d'ailleurs été lieu à la polémique, est-ce qu'on met du cinéma dans une médiathèque, entre la séparation entre l'écrit, l'image et le son, c'est obsolète depuis plusieurs années. Simplement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en étaient pas aperçus. Donc, je crois qu'il faut le dire, c'est obsolète. Et le jeu vidéo, on peut très bien avoir, je me rappelle le grand historien Philippe Joutard, un vieux monsieur, qui dans son livre Les Mémoires, me disait lors de la conférence, il a écrit dans les débats, si j'avais maintenant à faire un cours à des étudiants, bon, quand on était novateur, quand il était prof de lycée, il devait passer un film. Bon, là, c'était extraordinaire. Il y en avait qui passaient pas un film et qui dictaient des cours, hein, même au lycée. Mais maintenant, il passerait un jeu vidéo. Donc, vous voyez, et je pense que le passage entre les deux, entre une BD, un film et tout ça, est en train de. Voilà. Donc, c'est pour ça que le jeu vidéo est très présent dès le début. On a installé des jeux vidéo, on a lancé les jeux je ne me rappelle plus la date, il ne faut pas que je dise de bêtises, hein, mais enfin, ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'on fait ça. Hein. Et on en a maintenant dans chaque médiathèque. Quand on ouvre une médiathèque, dans chaque médiathèque, il y a des jeux de société, il y a des jeux vidéo. Et tout ça est lié au cinéma, mais pas lié qu'au cinéma. Il y a aussi aux autres, les autres secteurs. C'est pour ça que le jeu vidéo ne sera pas sur scène mezzanine. Le jeu vidéo, il concerne aussi bien la musique, la fiction, il concerne les autres espaces. Voilà la réponse.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça mériterait presque une journée de réflexion sur quelle différence pour un spectateur de cinéma et un spectateur de jeu vidéo, dans la mesure où l'un n'a pas la maîtrise de ce qui se déroule dans la fiction et l'imaginaire, et l'autre croit l'avoir dans le jeu. Et c'est tout à fait passionnant, effectivement. Et bravo d'avoir séparé les deux. Alors, nous allons changer d'échelle, hein, avec donc vous, Jean-Baptiste Mercier. Vous êtes donc à la tête de ce réseau de bibliothèques, de médiathèques, effectivement, sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus spécifique de votre travail ?
Bah, déjà, le territoire, qui n'est pas n'importe lequel, qui est, je ne vous surprendrai pas, il est très rural, il est enclavé, avec une démographie vieillissante. Et d'ailleurs, le principal axe politique du département, c'est un objectif de repeuplement, avis aux amateurs. Voilà. Pour autant, ce que je peux vous dire du territoire aussi, c'est que l'offre culturelle, elle est assez limitée, en particulier en dehors de l'été. Il y a une douzaine de cinémas dans l'Aveyron, dont une bonne partie, c'est une salle avec quelques séances par semaine. Et quant aux bibliothèques qui sont présentes, il y en a environ 200. Donc, qui constitue le réseau, le périmètre d'action de la BDP où je travaille. Et je ne me considère pas, on ne se considère pas comme étant à la tête de ce réseau, mais on cherche plutôt à travailler avec lui. Voilà. Ces 200 petites bibliothèques, je dis vraiment petites, hein, sont, pour la plupart, c'est des micro-lieux tenus par des bénévoles qui ont très peu de moyens, voire pas du tout de moyens, budget zéro. En général, pour la plupart, elles ne sont pas structurées non plus en réseaux intercommunaux. Ou, voilà, elles fonctionnent de manière isolée, en lien direct avec nous. Et voilà, il y en a une quinzaine de bibliothèques qui sont voilà, d'un niveau professionnel. Il y en a une quinzaine, surtout le département qui est quand même un département assez vaste. Voilà, moi je m'occupe des DVD. Alors, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des DVD à la BDP de l'Aveyron. De la même façon que les films arrivent dans les salles des campagnes aveyronnaises peut-être 6 mois après que vous puissiez les voir à Paris. Voilà, les DVD sont arrivés il y a 5 ans. Moi, j'y travaille depuis 3 ans, vous voyez, voilà, tout ça c'est assez récent. Donc le temps est un petit peu différent dans ce territoire. Et donc les bibliothécaires avec lesquels je travaille, qui pour la plupart sont des bénévoles, il y a environ 60 bibliothèques qui viennent emprunter des DVD de nos collections, où à l'heure actuelle on en a à peu près 7000. Il y a assez peu de connaissances sur le cinéma de manière générale et aussi pas beaucoup, ça va ensemble, pas beaucoup d'intérêt pour des formes un petit peu moins connues, identifiées, voilà, parce, en particulier le cinéma documentaire, voilà, parce que c'est pas connu en fait. Et donc voilà, la première demande qui venait au départ, c'était les films de l'actualité qui ont eu tant de succès dans les salles, paraît-il, et puis les films locaux, voilà. Mais d'autres choses, là tu nous angoisses un peu, Jean-Baptiste, ça, on connaît pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire, et très peu organisé aussi des projections publiques. Alors voilà une première chose. Rebondir sur cette question de l'altérité, l'ouverture que peut apporter le cinéma. Enfin, moi, je l'ai senti tout de suite, en fait. Voilà, c'était quelque chose qui fallait faire et qui est passé à travers, au début, un travail sur les collections de films. Y faire rentrer Jia Zhangke, Alain Gomis et tant d'autres et les valoriser au travers d'une médiation orale lorsque les bibliothèques viennent faire leurs échanges de DVD sur place et aussi à travers des sélections sur le site internet. Par exemple, la dernière que j'ai faite, une sélection commentée sur le cinéma colombien. Enfin voilà, des choses qui vont être une ouverture vers un ailleurs et ou du moins des formes peu repérées en fait. Des bénévoles et des bibliothécaires, mais pas forcément du public en fait, parce que je me suis rendu compte que à la campagne il peut y avoir un public cinéphile qui appréciera beaucoup le film de Jia Zhangke qui arrivait dans la petite bibliothèque. C'est important. Ensuite, une autre chose importante que font la plupart des... tout ce que je vais dire, c'est, je pense, représentatif du travail des BDP. Voilà, il n'y a pas de spécificité aveyronnaise particulière, à mon sens. Il y a le travail de formation des bénévoles et des professionnels. Donc, on organise 1 à 3 journées de formation autour du cinéma en bibliothèque par an, avec cet objectif, comme disait Marianne, de donner des connaissances et des clés, des outils, pour des ressources pour mettre en place des actions et donner des repères aussi pour faire un travail de médiation, parfois tout simple, sur des échelles, comme je vous le dis, très, très, très modestes. Et à travers ça, faire prendre conscience du rôle de la place du cinéma dans une bibliothèque, même petite bibliothèque rurale, et du rôle d'une bibliothèque dans la diffusion du cinéma, en particulier dans un contexte tel que je vous le décris. Et voilà des exemples de journées qu'on avait faites avec Images en Bibliothèque sur la valorisation des DVD, d'une collection de DVD dans une bibliothèque. Plus récemment, on a fait venir Federico Rossin, qui est programmateur indépendant, qui est venu parler de son travail de programmateur, qui connaît d'ailleurs très bien le milieu rural, en fait. Et voilà, c'était vraiment passionnant, ça a vraiment remis beaucoup de choses en perspective. Et jeudi, on a une journée avec les studios Folle Image autour de leur travail aussi. Et voilà, et on va continuer chaque année à proposer des temps comme ça, en fait. Le prochain, ce sera au mois de novembre, pendant le mois du film documentaire, où un des réalisateurs invités va rester une journée spéciale pour les bibliothécaires masterclass. Voilà. On espère que ce soit Alice Diop.
Et est-ce que vous avez des liens avec l'université à Toulouse, par exemple ? Je pense à l'ESSAV en particulier, qui est une très bonne école de cinéma, très orientée documentaire. Est-ce qu'ils vous envoient des gens ? Est-ce que ça peut être des formateurs ? Vous avez
oui,
des liens ?
Non, on n'a pas beaucoup de liens avec eux, si ce n'est à travers, par l'intermédiaire du Centre régional du livre. Mm-hmm. Voilà, mais non, on n'a pas plus de liens que ça avec, avec l'ESSAV. Mais voilà.
Pensez-y, parce que ça peut être une ressource. Et puis, vous avez père et fils Rouault, quand même, qui ont fait ce magnifique film sur le Larzac. J'espère qu'ils viennent vous en parler ou qu'il y a des choses qui se passent, j'imagine.
Oui. Il est parfois projeté, en fait. Voilà.
Qu'ils viennent, quoi. Parce que ça fait tout à fait autre chose quand vous avez le cinéaste dans la salle.
Bien sûr.
Merci. Alors, Éric Mallet, donc.
Oui.
Plutôt.
Alors, à quoi je pense quand je vais à mon palais le matin ? Je vais parler dans le micro. Alors, quand je donne des cours aux étudiants, je dis que le vidéothécaire a des missions. Voilà, donc je vais commencer par vous faire quelques citations plutôt que de paraphraser. J'avais pris un commentaire de Frédéric Bonneau, en fait, quand il a pris ses fonctions à la Cinémathèque française. Il disait, j'ai récupéré ça pour le vidéothécaire, notre devoir, c'est la transmission. Il est nécessaire d'accompagner de plus en plus les films, de les introduire, d'éclairer leur raison d'être, ne serait-ce que parce que la distance temporelle qui existe entre leur fabrication et leur réception par les spectateurs d'aujourd'hui s'accroît mécaniquement. Par exemple, il faut expliciter quelles conventions dramaturgiques ont présidé à la réalisation de ces films. Donc ça rentre dans ce que j'estime une de nos fonctions, la transmission du patrimoine, auprès des jeunes générations, peut-être auprès des moins jeunes, voilà non plus. Autre commentaire que j'ai vu aussi. Alors, moi, j'ai un bouquin qui est culte avec le médiathème, l'ancien médiathème audiovisuel en bibliothèque. Un livre que j'aime beaucoup, Cercle de la librairie, de Bertrand Calange, qui malheureusement est décédé. Il s'appelle La médiation des connaissances en bibliothèque. Et alors là, il parle de manière générale, pas seulement dans le secteur du cinéma, mais il y a cette phrase qui pour moi est primordiale, les bibliothécaires doivent agir pour introduire la pensée critique auprès de leur public, pour leur communiquer une information la plus librement possible, pour permettre le débat et l'échange. Donc ça rejoint un petit peu aussi l'un des rôles de bibliothèque, on va le voir tout de suite, un lieu où on peut échanger, où on peut débattre, où on sort un peu de ce qui est formaté par les médias. Et enfin, il y avait une exploitante qui disait, c'était ça dans positif, et parlait de passeur de sens. Et ça, c'est une expression que j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'on est là pour transmettre des connaissances, mais cette idée sens, cette sensibilité, je pense que c'est transmettre le cinéma par l'émotion, ça me paraît primordial. Et cette exploitante dit aussi, on est là pour donner les clés de compréhension du monde. Donc développer l'esprit critique, là je me répète, mais besoin des cinéastes pour comprendre le monde dans sa complexité. Et donc, pour moi,
le nom de cette exploitante
je ne l'ai pas malheureusement. Sinon je l'aurais cité, j'ai oublié. Je vous le communiquerai
si
vous voulez. Voilà.
Juste rendre hommage.
Non, positif, oui, c'est très bien, c'est l'entretien. Donc pour moi, il y a vraiment deux versants, cette transmission de la mémoire par rapport au patrimoine. On parlait avec Jean-Yves de Jean Gabin. C'est vrai, quand j'ai fait un cours là, à l'IUT de Saint-Cloud, j'ai demandé aux étudiants, est-ce que vous connaissez Jean Gabin ? Il avait 16. Les 16 connaissaient. OK. Après, je leur ai demandé, combien d'entre vous ont vu un film avec Jean Gabin ? Aucun. Ils ont 20-22 ans, ils n'ont pas vu de film avec Jean Gabin. Ils savent que ce patrimoine cinéma français a une valeur artistique, esthétique, mais ils n'y vont pas. Et ça, c'est vraiment un des débats, voilà, une des questions qui m'interpellent, que je vais essayer de résoudre, enfin, bon, c'est à travers les médiathèques, enfin, bon, à travers les animations, j'y viendrai tout à l'heure. Et moi, ce que j'explique, donc, transmission du patrimoine, et je pense qu'on doit avoir un côté régulateur aussi, défendre des œuvres qui n'ont pas eu la chance de trouver du succès en salle. Il sort 15 films par semaine, parfois encore plus. Hein. Il y a des petits films, ça va très très vite, hein, et ils passent deux semaines, quatre séances par jour. Après, ils se retrouvent au cinéma La Clé, ou à une séance à 11h, ou une séance à 9h du matin, ou MK de Beaubourg. Donc sur Paris, par rapport à un public évidemment de franciliens, il y a accès au film, mais il faut quand même avoir aussi la possibilité d'y aller. Hein. Ça va extrêmement vite. Voilà, donc c'est un petit peu ces deux missions. Alors je reprends un peu là par rapport à ce que vous avez donné, des petites questions qui pourraient m'être posées. Bon, ça va me servir de fil conducteur. Alors, quels sont les films que je propose dans ma médiathèque? Moi, il y a trois axes, hein, deux fois trois axes d'ailleurs. Bon, il y a le cinéma, il y a les séries télé, et il y a le cinéma documentaire. Enfin, le documentaire, le cinéma avec regard d'auteur. Comme je dis toujours, ce cinéma documentaire que je classe par cinéaste d'ailleurs, parce que par exemple, je prends un exemple, Le Front de l'air est rouge, là, ça va être les 50 ans de mai 68, hein, il y a une rétrospective de la cinémathèque de Chris Marker. Pour moi, il doit être classé à Chris Marker. C'est les mouvements révolutionnaires en 68 vus par Chris Marker. Il y a vraiment un regard de cinéaste, il y a un montage qui lui est spécifique. Et moi, je trouve nécessaire de classer tous les films de Chris Marker ensemble, parce que j'aimerais bien, bon, c'est un peu utopique, que la démarche de l'adhérence, et voilà, j'ai aimé un film de Chris Marker, plus que le thème, et que ça fait un lien avec l'œuvre. Et puis bon, j'ai du mal à séparer la Chine d'Antonioni avec ses films de fiction. Hein,
et vous êtes contre les fantômes?
Je ne suis pas de fantôme, non.
Non, non, mais justement, l'idée de double classer.
Oui, après, c'est une idée, hein, qui pourrait être prise en considération. Bon, après, moi, j'essaie de voir le public qui est intéressé. Moi, je préfère communiquer directement avec le public. Mais c'est vrai que tout ça demande du temps à fabriquer les fantômes. Bon, après, pour le cinéma de fiction aussi, bon, il y a trois axes. C'est tous les genres, tous les pays... d'origine et toutes les époques. D'ailleurs, vous disiez, faites-vous côtoyer cinéma d'auteur et cinéma de genre. Pour moi, l'un n'exclut pas l'autre. John Carpenter, c'est un auteur. Et il fait du cinéma de genre.
Ouais,
et maintenant, c'est même du patrimoine. Massacre à tronçonneuse, maintenant, c'est un film de patrimoine. C'est un film de genre. Et puis en plus, qui lie à une époque bien particulière, les années 70, comme avec un état d'esprit un peu différent par rapport à ceux qu'ont fait les remakes ces dernières années. Donc c'est un panorama du cinéma. Voilà, j'aime bien avoir un cinéaste de série B italienne.
Mais comment vous le mettez en avant?
Comment on met en avant?
Par exemple, vous voulez faire connaître Bava.
Mario Bava, parce qu'il y a un super intercalaire Mario Bava.
Je savais.
Voilà, après, il y a de super intercalaires.
Mais vous faites comment, justement?
Écoutez, comment connaître le cinéma par rapport au public? Alors d'abord, le public, j'essaie de bien connaître le public pour bien cibler. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui me demande un conseil, je me pose des questions vers la personne qui est en face de moi, c'est parce que ça travaille de psychologue. Voilà, je me demande un peu quels sont les acquis culturels de cette personne. Ensuite, de voir le degré de sensibilité artistique et l'ouverture d'esprit.
Et donc, vous pouvez répondre un par un?
Voilà. Et alors, on essaie de voir donc Mario Bava. Comment faire connaître Mario Bava? Je dirais vers des personnes qui s'intéressent d'abord au cinéma fantastique. Leur dire ce qui a été fait autrefois, aussi Femme pour l'assassin, Maison de l'exorciste, peut-être que vous avez envie de découvrir. Ou à quelqu'un qui s'intéresse à l'esthétique. Mais j'essaie comme ça, c'est au feeling par rapport au public. Oui. Après, je peux le faire à travers une animation également. Mais ça, je vais venir.
Ce que vous toucherez, il faut y venir vite, parce que vous n'avez pas beaucoup.
Alors,
de temps.
Donc les animations, le cinéma supérieur à un autre, on m'a accusé d'avoir des soucis avec la famille Bélier, parce que souvent je disais que je fais des hiérarchies. Il est indispensable de faire des hiérarchies dans le cinéma, ça se reprend un terme de Michel Simon pour la critique. Hein. Et je disais que pour moi, c'est Winter Sleep. Bon, il y a quand même plus de qualité que la famille Bélier. Que c'est peut-être
et comment vous faites avec la personne qui fréquente votre médiathèque et qui, elle, trouve que la famille Bélier quand même, ça agite des sentiments très nobles.
Oui, ben je ne critique pas. Hein. Voilà,
ah oui, mais vous faites une hiérarchie, donc d'emblée alors, la personne se sent mal.
Voilà, alors ça dépend à qui je vais faire aussi. Bon, voilà, par rapport
c'est très individualisé.
Voilà, c'est très individualisé. Il ne faut pas que deux personnes soient en même temps auprès. Mais c'est en fait ciblé. Vous savez, c'est ciblé.
Vous n'y arriviez pas avec vos 14 médiathèques.
C'est ciblé. Et quand je vois des gens qui me sortent, au lieu de la carte de prêt, la carte de sécu, je me dis, on est là aussi pour un rôle. C'est comme le patient. C'est le patient prescripteur, mais on est dans ce cas-là.
Je vais vous demander, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, de nous parler de quelque chose dont vous êtes le seul autour de cette table, je crois, dans ce que j'ai vu, de ce que vous aviez, mesdames aussi, écrit, à vraiment travailler, qui est les séries. Comme j'ai posé la question sur le jeu vidéo, vous avez visiblement une optique série que je n'ai pas trop vue ailleurs. Ça vaudrait le coup que vous nous en parliez. Parce que c'est le mauvais objet, les séries, quand même.
Ouais, mais ça tend à diminuer, hein, peut-être grâce au stage d'images en bibliothèque. Hein. Voilà, parce que moi, qui fais quand même connaître l'intérêt des séries, puis de séries mania. Bon, les séries, avant d'être cinéphile, j'étais plus intéressé par les... l'univers des séries. Alors, par contre, ce qui est plus particulier, je défends, et ça, je mets l'accent, sur le patrimoine, parce que les séries télé ont du patrimoine. Il y a quelque chose qui est complètement délaissé aujourd'hui en bibliothèque, c'est le patrimoine français. C'est le feuilleton populaire. Et je trouve que les 5 dernières minutes, par exemple, ont toute leur place en médiathèque, parce que chaque enquête, bon, l'intrigue vaut ce qu'elle vaut, est dans un milieu social qui est vraiment un témoignage sur comment on vivait dans un milieu déterminé dans la 4e, sous la 4e République, même pour les premiers épisodes, notamment l'épisode qui se passe au Forum des Halles. Donc il y a ce patrimoine, il y a la 4e dimension aussi qui est très intéressante comme série, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à voir des films en noir et blanc. On leur propose de voir un épisode et c'est le côté décalé qui prime sur le côté ancien de l'image, en fait. Voilà. Bon, bah, les séries actuelles, est-ce que j'ai vraiment besoin de les défendre, même s'il se trouve que les Sopranos ou Sur Écoute sont vraiment aujourd'hui des classiques d'œuvres audiovisuelles, hein. Je crois qu'il n'y a plus vraiment besoin de les défendre. Tout le monde, presque tout le monde, est convaincu, non ? Pas vous ?
Moi, je suis complètement convaincue. Voilà. Pour moi, je suis Arnaud Desplechin qui disait il y a une semaine sur France Culture, The Wire, Sur Écoute, est un des plus grands films de ces 10 dernières années. Donc, je suis totalement là-dessus. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit si généralisé que ça. Je trouve très optimiste et j'en suis ravie.
Dans les bibliothèques, de plus en plus. Hein, je suis de moins
tant mieux,
confronté. C'est plutôt un manque de connaissances. Il n'y a plus la réticence. C'est vrai qu'autrefois, moi, quand j'ai démarré il y a 19 ans plus tôt, j'avais pris Friends, la série télé. On m'a dit comment tu dépenses de l'argent alors qu'on n'a pas tous les films d'Antonioni. Voilà. Alors, à travers les animations sur les séries télé, bon, bah, les animations, moi, j'essaie d'avoir des jeunes sur les séries télé. Alors, je leur dis, venez défendre votre série.
Voilà.
Alors, il faut les connaître aussi, hein, parce que si vous défendez des choses du passé, Belphégor, et que vous ne connaissez pas les séries actuelles, hein, notamment les séries Netflix, hein, qui nous posent vraiment problème en bibliothèque, puisque Netflix ne sort pas ses séries sur DVD, hein, à part quelques exceptions. Et les exceptions qu'on pourrait s'en passer, je pense à Marseille notamment. Mais la France Télévisions.
Si vous aimez Marseille, c'est
alors fini. Les animations, voilà, c'est, on dit aux jeunes, viens, tu vas défendre ta série télé. Il vient avec sa clé USB, on lui dit tu sélectionnes un extrait, bon on regarde pas trop l'origine, mais on lui dit simplement que l'extrait doit être très court. Ouais, mais sinon on peut rien faire non plus, hein. L'extrait doit être très court, 2-3 minutes pour quand même respecter des certains principes. Bon, et puis on est là quand même pour faire de la publicité. Et ça, ça fonctionne aussi. Hein. Bon, moi, sur les séries télé des années 60-70, c'est moi qui fais une conférence le 14 juin. C'est l'influence du Nouvel Hollywood sur les séries télé des années 60, parce que
c'est vous.
Pas dénigrer.
C'est vous, parce que j'ai vu, effectivement, il y avait aussi une manifestation sur... qu'est-ce que c'était ? L'intitulé, c'était « L'influence du nouvel Hollywood sur les cop dramas dans ces années 60-70 ». Je me suis dit quand même, il aurait donné le nom d'intervenant.
C'est moi, ouais, c'est pour ça que c'est pas, qu'il n'apparaît pas. Mais non, c'est moi, parce que j'ai voulu défendre des séries des années 60 qui étaient en lien avec le nouvel Hollywood. Parce que je pense que les séries aussi des années 60 avaient des qualités, il y avait des liens avec le cinéma.
Donc, pardon de vous interrompre, mais en fait, vous retrouvez dans les séries ce que vous nous avez donné comme étant des axes, à la fois la transmission du patrimoine, vous nous avez dit que Passeur de sens, c'était quelque chose qui était essentiel pour vous. Et d'autre part, je trouve très intéressant cette question de régulation, effectivement, qui, par exemple, vous permet de montrer Belphégor à des jeunes. Alors, je vous frustre, je sais, mais est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez dire avant que je ne passe la parole à dans tout ce que vous aviez à dire.
Ouais, moi je pense que bon, mon travail sur les animations en général, c'est le côté participatif hein, du public qui ressort, et je pense que voilà qu'il faut pas hésiter à ce niveau-là. Moi j'ai fait une animation qui fonctionne depuis 13 ans, c'est un mix entre Le Masque et la Plume, célèbre émission, et un club de lecture. Je demande au public de venir défendre ou commenter des œuvres qu'ils ne connaissaient pas au départ, que j'ai proposées en fait. Et ça, ça marche très fort. Ça permet de créer du lien social, de créer une communauté, comme disait Jean-Yves, j'ai repris son appellation, de fidéliser un public aussi. Et c'est très important pour faire vivre le cinéma. Comme disait Dané, bon, quand on passe 1h30 dans une salle obscure, l'important, c'est aussi d'en parler après. Voilà.
Tout à fait. Merci. Passionné, n'est-ce pas ? Alors, Niaya, vous êtes donc à Conflans-Sainte-Honorine. Quel est votre axe majeur de travail dans votre médiathèque?
Alors, j'ai beaucoup d'axes, hein, puisque tout le monde le sait, on a de moins en moins de on supprime de plus en plus de postes, donc on devient de plus en plus occupé à faire multitâches. Mais ma présence ici, autour de cette table, se justifie par le travail qu'on a fait à Conflans sur le web documentaire. Et le web documentaire, je l'ai découvert en 2013, deux ans après avoir repris la responsabilité du fonds de cinéma documentaire, de films documentaires. Et je trouvais que c'était intéressant, que c'était complémentaire en tout cas, d'apporter ce nouveau mode de narration, cette nouvelle création sur le documentaire. On a eu à ce moment un stagiaire qui est venu chez nous travailler. Il a fallu l'occuper pendant 4 mois. Donc voilà, on lui a proposé de travailler sur le web documentaire. Bon, je crois qu'il n'était pas ravi au début, hein, il voulait travailler sur le cinéma patrimonial. Et puis finalement, ça a été, il a fait du très très bon travail. Et on a consacré sur notre site, alors vous verrez à côté de la photo de notre cher élu, vous verrez dans nos ressources, il y a un bandeau nos ressources, et à l'intérieur, on a le web documentaire. Alors, on fait une présentation assez rapide, hein, très classique, hein, on l'a prise de Wikipédia, sur le web documentaire. On propose quelques webdocs qui nous ont vraiment plu, qui sont vraiment de très très grande qualité. Et puis, cette même année, en 2013, on a souhaité faire un focus sur ce webdoc. Donc, on a consacré le mois du film doc au web documentaire. On a invité Cédric Mann, qui est le pape du web documentaire, hein, on peut dire, en France, et Céline Dréan, qui est une web documentaliste et qui a présenté son film Dans les murs de la Casbah. Ça a été un très grand échec. On a eu très très peu de monde, très très peu de monde. Les gens ne savaient pas ce que c'était le webdoc, mais Cédric Mann était vraiment là pour en parler, pour présenter ce nouveau mode de création cinématographique. Et j'ai continué. Alors, la chose qui est intéressante à Conflans, c'est qu'on a intégré les web documentaires à notre catalogue, c'est-à-dire qu'on leur attribue, on les catalogue. J'ai créé une grille de catalogage spéciale web documentaire. Donc, au même titre, je les catalogue au même titre qu'un film, qu'un CD, qu'un DVD, qu'un jeu. Et je les exemplarise pour qu'ils apparaissent dans les recherches. Lorsque je cherche, par exemple, quelque chose sur les gangs, la mafia au Guatemala, eh bien, je tombe notamment sur Alma, une enfant de la violence. Lorsque je cherche quelque chose sur la danse classique, eh bien, je trouve des choses également sur un web documentaire, sur la danse à l'opéra, etc., etc. Donc, c'est considéré comme un vrai document physique, qui est présent dans nos collections, mais évidemment on ne peut pas l'emprunter. Quand on clique sur la notice, il y a un lien tout en bas qui nous dirige directement, donc c'est un lien profond, qui nous dirige directement, on arrive directement sur le web documentaire. Alors, le web documentaire, ça n'est pas comme nos livres, hein. Soit on les a, soit on les met en réserve, on les met au pilon. Il faut faire de la veille très régulièrement, très très régulièrement, pour voir si le lien est encore actif. Alors, on a de moins en moins de temps pour ces choses-là. Donc, moi, j'en profite quand je suis au service public, je suis auprès, je vais vérifier 2-3 webdocs pour voir s'ils sont encore actifs. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'on a commencé avec 110 webdocs à peu près, et aujourd'hui, on en est à 58. J'en ai supprimé à peu près la moitié, parce qu'il y en a pas mal qui ne sont plus actifs. Quand vous allez sur la page Arte, par exemple, malheureusement, désolé, ce lien n'est plus actif. Donc, c'est très frustrant, parce qu'on a l'impression que, ça n'est pas une impression, on ne maîtrise pas notre catalogue de web documentaires comme on maîtrise notre catalogue de DVD ou de livres, qu'on décide ou pas de mettre en réserve au pilon, etc. Donc ça, c'est extrêmement frustrant. Et puis, il y a une autre frustration aussi générée par l'entrée du webdoc dans notre catalogue, c'est le visionnage de ces webdocs. On ne sait pas. On n'arrive pas à savoir si les lecteurs visionnent ou pas les web documentaires. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est considérer le webdoc comme un document, c'est-à-dire qu'il apparaît dans nos nouveautés, on a un bandeau de nouveautés, il apparaît comme une nouveauté, comme un document nouveau qui est entré dans les fonds de la bibliothèque. Et voilà. Ça peut faire... appel, enfin ça peut être un effet de curiosité, on clique en se disant tiens qu'est-ce que c'est ce webdoc, et après on peut effectivement accéder aux 58 web documentaires qui sont catalogués dans notre base. Voilà ce que j'avais à dire. Après il y a des grands noms, il y a Samuel Bollendorf, Simon Buisson, etc. Ceux-là, j'ai du mal à isoler leur web documentaire, donc je ne sais pas comment faire. Est-ce que je vais mettre directement comme Wiseman, comme d'autres grands documentaristes, est-ce que je vais mettre un lien qui donnera accès à tout leur travail? Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à la question. On manque tellement de temps, on travaille tellement dans l'urgence dans ce métier, enfin vous le savez, qu'on se dit je vais le faire, on le note et puis on n'a pas le temps. Enfin voilà, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir.
Et puis vous avez commencé en disant que vous étiez multitâche, donc quand je vous entendais parler de est-ce que oui ou non c'est vu, je me dis mais ce serait formidable d'avoir une enquête, mais qui pourrait faire cette enquête?
Alors,
la lecture.
Oui. Alors, on pourrait le savoir, mais nous avons un service informatique qui a la main sur ces statistiques-là de consultation, mais ils sont tellement débordés, ils ont encore perdu une personne, que c'est vraiment c'est difficile de leur demander de nous accorder du temps pour savoir si oui ou non c'est consulté.
Et pour les personnes du public qui seraient intéressées, qui ne travaillent pas encore le web documentaire, est-ce que ça pose des questions d'ayant droit spécifique?
Non, pas encore, je ne crois pas. Je ne sais pas, Marianne, je ne pense pas que le webdoc...
Ça revient vers le webdoc, c'est différent si tu peux le mettre à disposition avec ton iframe, bien sûr, ta page web, mais c'est le lien.
C'est juste un lien.
C'est un lien,
donc... Oui, donc non.
Non.
Oui, 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 puisqu'on avait payé les droits pour les murs de la Casbah pour Céline Dréan, on avait réglé les droits.
En tout cas, merci, parce qu'effectivement, entre les jeux vidéo, les séries, le webdoc, on commence à voir que ça nous dépasse largement le livre de jeunesse. Nous allons terminer ce tour de table pour avoir ensuite un temps de questions avec Corinne. Donc, Corinne Japin, vous êtes à Reims et vous avez fait un gros travail sur les... Pas sûr, c'est comme les élèves de la FEMIS quand ils me disaient « je travaille sur les acteurs », je dis « non, vous travaillez avec les acteurs, avec les adolescents ».
Oui, tout à fait.
Une grande spécialité visiblement sur le sujet.
Alors, grande spécialité, je ne sais pas. Je pense qu'on tâtonne tous pour attirer les adolescents en bibliothèque. Oui, c'est vrai que donc moi, j'ai été embauchée sur cette médiathèque en 2003 maintenant, comme vidéothécaire, mais pas que. En fait, j'ai un poste qui est image, c'est-à-dire que je m'occupe aussi d'expositions d'illustrateurs jeunesse, de dessinateurs adultes, de faire venir des illustrateurs. Et puis, sur le côté, effectivement, toutes les missions d'animation et de validation valorisation des collections vidéo. Donc voilà, donc je m'occupe des acquisitions. En fait, je ne gère pas vraiment les collections, mais je m'occupe des acquisitions en jeunesse et en adulte. Donc on a 9000 films sur cette médiathèque. Et il se trouve que c'est vrai que j'ai été embauchée alors avec un parcours un petit peu atypique pour travailler en vidéothèque, puisqu'en fait donc, j'ai fait des études universitaires de lettres et cinéma, mais j'ai aussi des diplômes qui s'appellent des BATEP et DEFA, donc qui sont des diplômes d'éducation populaire pour monter des projets d'animation dans des structures socioculturelles. Donc c'est vrai qu'on m'attendait vraiment là-dessus. Donc alors, effectivement, donc je mets pas mal d'animation en place. Donc déjà, je fais des accueils de classe cinéma. Je travaille étroitement avec les dispositifs école, collège et lycéens au cinéma. Ça me paraît très important quand on fait des animations en médiathèque. Donc voilà, donc j'ai construit des accueils de classe en fait autour des jeux optiques et du cinéma d'animation. Et j'essaie en fait... parce qu'évidemment, comment travailler en partenariat avec ces dispositifs sans être dans la diffusion de films, là, pour le coup, accompagner les enseignants sans prendre leur place non plus dans l'accompagnement de films qu'ils voient. Donc voilà, donc, c'est créer un accueil de classe où je vais leur donner des repères historiques sur l'animation d'images, voilà, donc des lanternes magiques jusqu'à aujourd'hui.
Par exemple, un film d'école et cinéma, qu'est-ce que vous faites dessus ?
Alors moi, rien. Par exemple, je vais me positionner, en fait, l'année dernière, ils voyaient Azur et Asmar. Donc moi, je propose aux enseignants de venir à la médiathèque. Donc c'est des accueils de classe qui durent une heure. J'en fais deux fois par semaine. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande. Après, je suis sur une grosse collectivité aussi. Et du coup, c'est leur donner, je vous dis, des repères historiques sur l'animation des images, en fait.
Avant ou après qu'ils ont vu le film ?
Alors, il y en a qui viennent avant, qui préfèrent, et il y en a qui préfèrent après. Voilà.
Donc, ça veut dire une concertation avec les enseignants.
Tout à
un
fait.
Temps de concertation avec les
tout
enseignants.
Ce
n'est pas un service clé en main.
Et avec le comité de sélection du dispositif, en fait. Voilà. Donc, sinon, bon, ben, on fait des projections mensuelles. Donc, alors, on a la chance, c'est vrai, donc je parle des deux possibilités qu'on a sur le réseau. Donc, sur ma médiathèque, on a une salle d'expo un peu polyvalente, mais qui peut permettre de faire des projections pour 50 personnes. Et sur la médiathèque centrale, qui s'appelle donc Jean Falala, il y a un auditorium de 200 places, en fait, ce qui nous permet de faire de belles projections. Donc voilà, donc une projection par mois pour les petits de 3 à 6 ans et une projection pour les plus de 6 ans. Et donc c'est vrai que depuis 2012, donc on a construit avec ma collègue Laurence qui se trouve dans la salle, un projet, un rendez-vous mensuel pour adolescents qui s'appelle la séance controverse et qui a lieu donc une fois par mois, le dernier samedi du mois, quand on arrive à l'intercaler dans tous nos rendez-vous. Et c'est en alternance. Donc un mois, c'est sur la médiathèque Croix-Rouge, un mois, c'est sur la médiathèque Jean Falala, parce qu'on est un peu idéaliste et on espère que nos adolescents vont se déplacer d'une médiathèque à l'autre pour favoriser les échanges, justement. Alors, qu'est-ce que la séance controverse ? Donc, alors, c'est parti, en fait, d'un constat... En tant que vidéothécaire, on se pose la question sur certains films, est-ce qu'on les met en jeunesse, est-ce qu'on les met en adulte ? Alors s'il y a un interdit moins de 12, on les met systématiquement en adulte. Et puis il y a des films qui n'ont pas d'interdiction, que l'on a envie, on a envie que la rencontre se fasse avec les adolescents, on se dit si on les met en adulte, est-ce qu'ils ne vont pas être perdus, etc. Donc voilà, on voulait faire un rendez-vous pour proposer ces films. Alors c'est des films, si on les met en jeunesse, alors par exemple, je ne sais pas, je pense à par exemple La naissance des pieuvres de Céline Sciamma, on va avoir des retours en nous disant mais quand même... proposer ces films en jeunesse sans accompagnement, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est proposer un rendez-vous sur ces films. Alors on est deux vidéothécaires à programmer et à animer, plus un animateur cinéma du cinéma d'art et essai de la ville. Donc l'idée, c'est de présenter le film, projeter le film et de proposer en fait un accompagnement en donnant des clés en fait pour les décrypter, les analyser et surtout en discuter. Voilà. Alors, c'est des films, effectivement, qui peuvent être percutants, qui peuvent être impertinents, qui peuvent... Alors, je ne sais pas, pour vous citer des exemples comme ça, ça peut être « We need to talk about Kevin » de Lynn Ramsey, ça peut être « Jackie au royaume des filles » de Riyad Sattouf, ça peut être un film de genre qui va être « Discopathe » ou c'est...
Discopathe ?
Oui. Discopathe, en fait, c'est un film canadien de 2013 et c'est le personnage principal, dès qu'il entend un morceau de disco, il devient meurtrier.
Super.
Voilà.
C'est bien.
Donc voilà.
Alors, c'est... je veux le voir.
Donc, et alors, c'est vrai que... Donc c'était donner une visibilité à ces films, provoquer ce moment de rencontre. Et puis c'était aussi parce que, ben, pour faire un lien aussi avec la littérature jeunesse, parce que ma collègue justement s'occupait d'un fonds qui s'appelait Passerelle, qui donnait une large place à des collections pour ados comme Dos à dos noir d'Urwerg ou Exprime de Sarbacane. Et en fait, voilà, on a voulu créer un pendant de programmation cinématographique de ces collections pour adolescents. Alors ensuite, c'est vrai que pendant 2 ans, c'est nous qui programmions en fait. Et depuis 2014, on demande à des adolescents de nous accompagner dans la programmation. Et lorsque c'est eux qui nous proposent un film, on leur demande de présenter le film. Mais l'accompagnement derrière se fait toujours par l'animateur et par nous, les vidéothécaires.
Et est-ce que la programmation s'accompagne de visionnement ? Parce qu'une bonne programmation, c'est une programmation de films qu'on vient de revoir.
Qu'on vient de revoir. Alors là, on est plus dans la découverte, en fait. On projette le film.
Non, ce que je veux dire par là, c'est, vous avez, pour que je comprenne bien, vous avez donc des jeunes, et je trouve ça formidable, un atelier de programmation, c'est toujours très riche, que ce soit en lecture ou en cinéma. Mais effectivement, ils arrivent avec des titres qu'ils ont vus, eux, ou pas.
Oui,
qu'ils ont
en général. La dernière programmation, par exemple, l'adolescente nous a... Alors là, pour le coup, parce que c'est vrai, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça s'adresse aux 14 ans et plus. Donc normalement, on met des interdits moins de 12, mais pas d'interdits moins de 16. Il se trouve que là, elle nous a proposé Carrie de Brian De Palma. Et bien voilà, en fait, on pensait que ce film était interdit moins de 12. Il se trouve qu'il est interdit moins de 16. Et du coup, on a fait un écart par rapport à notre charte de programmation et on l'a autorisé à programmer ce film.
Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est faire un rapport avec ce qui se passe dans les dispositifs, avec les instances nationales qui choisissent les films pour collège, école et lycéens, et qui voient les films avant de dire ça peut passer dans tel ou tel dispositif. Parce qu'on vous propose un film à vous, vous avez visiblement une énorme culture cinématographique, mais peut-être vous comme moi et discopathe, vous ne le connaissiez pas avant de le voir.
Donc, alors si, tout à fait. Alors,
comment
si
fait-on
on projette
voilà,
toujours
c'est
des films que l'on
voilà,
a vus avant.
C'est ça.
Oui,
c'est
tout
vraiment
à fait.
Important. Quoi.
Oui, c'est assez important. Et d'ailleurs, je fais partie du comité de sélection de lycéens et apprentis au cinéma aussi. On travaille vraiment en étroite collaboration avec les dispositifs. Ça me semble très important. Et puis donc, hormis donc ce ciné-club pour adolescents, je coordonne aussi la fête du cinéma d'animation sur le réseau des bibliothèques. Donc alors, coordination, parce que c'est vrai que c'est un gros projet. On accueille 3 expositions. Au mois d'octobre, autour de films. Alors, on essaie en fait de mettre en avant toutes les formes du court-métrage à la série, au long-métrage, toutes les techniques d'animation. Donc là, par exemple, pour le mois d'octobre, on peut vous dire, hein, en ce qui concerne le court-métrage et pour les plus petits, on va avoir une exposition autour de Jean-Michel Le Caribou des Bois. Donc pour faire un lien aussi avec l'illustration jeunesse, puisque Magali Le Huche est à la base illustratrice jeunesse. On va avoir une exposition aussi autour du film Adama de Simon Roubi. Alors, on fait venir les réalisateurs hein, également pour des rencontres et des regards croisés. Et puis, on a toujours une touche, une programmation un petit peu plus décalée. Et cette année, on va avoir Winchlus, en fait, qui est dessinateur chez Les Requins Marteaux, mais que certains connaissent peut-être plus sous le nom de Vincent Paronneau, qui a fait Persepolis avec Marjane Satrapi. Voilà. Et donc, on monte aussi, on propose énormément d'ateliers tout le long du mois, des choses plus événementielles, comme des ciné-concerts, comme même une boom animée, comme on crée des liens entre le street art et puis l'animation. Bon, là, ça tombe à l'eau, mais on devait avoir Monsieur Chat qui devait venir aussi. Enfin, voilà, on essaie de créer des liens entre la BD aussi et le cinéma d'animation. On avait reçu Laurent Boileau l'année dernière qui avait fait Couleur de peau miel. Voilà.
Donc, on a... je ne sais pas qui a choisi les intervenants, mais bravo sur la variété, vraiment. Donc si on a vu comment des espaces, et je pense que vous avez dû faire des jaloux sur la façon dont vous avez décrit l'espace qui, n'est-ce pas, va être magnifique. Déjà qu'il y a une tradition dans Montpellier cinéphilique très très forte. Vous êtes inscrit dans un terreau qui est très fort là-dessus. Donc sur le plan architectural, vous allez avoir un beau programme, cette question de jeux vidéo. La façon dont mon voisin de droite est sur une cinéphilie militante, mais complètement organisée entre la transmission, la pensée, la régulation, dont vous avez, moi je trouve, défriché le webdoc vraiment avec... j'admire parce que c'est pas facile, vous l'avez pas dit ça, mais c'est pas facile vraiment l'accès au webdoc, ni pour la recherche et la mise en ligne, ni pour celui ou celle qui va s'affronter ça, à ça pour le début. Le travail qui se fait sur le territoire jusque aux rives, à la Couvertoirade et à Millau, et ça, il faut en prendre conscience quand on habite dans une grande ville. Hein, c'est comment est-ce que le livre, comment est-ce que le DVD, comment est-ce que le cinéma arrive, et le cinéma itinérant, on aurait pu en parler aussi, jusque dans les territoires les plus reculés. Et merci d'avoir dit qu'il y avait des cinéphiles dans les petites villes. Je confirme. Je confirme parce que je fais beaucoup d'animation en région et c'est vrai ce que vous dites. Et puis, ce travail avec les adolescents. Et vous avez mis en avant la question des dispositifs scolaires, dont effectivement, je pense que vous êtes nombreux à travailler avec les uns les autres. Et comme on m'a laissé la possibilité de déborder de 10 minutes, il reste 10 minutes pour le public pour poser des questions et de parler fort pour poser votre question. Oui. Plus fort. Alors,
ce que j'ai pas précisé.
Pardon, mais je vais répéter la question parce que je pense que vous ne l'avez pas entendu. Comment faites-vous pour faire venir les adolescents pour leur parler ?
D'accord.
Il va falloir être concentré dans la réponse pour qu'on ait plusieurs questions.
Bien sûr. Donc, en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est 8 séances pour le public et une séance scolaire par an. En fait, il se trouve que la séance du mois de décembre, elle fonctionnait pas très bien. Du coup, on l'a transformée en séance scolaire. Donc là, par exemple, on a fait une reprise. On a passé Después de Lucia de Michel Franco. On l'a fait en concertation avec les documentalistes aussi. C'est hyper important de communiquer. À un moment donné, je pense qu'on peut pas... On est obligé de passer par l'éducation nationale aussi pour réussir à faire connaître le rendez-vous et à réussir à informer les jeunes. Oui.
Non, vraiment, parler pour tout le monde.
Oui. Vos séances des 14 et plus, ça, oui. C'est pas du tout avec les scolaires ?
Si. Là, on a fait venir, alors on était 130 en tout et il y avait, je ne sais plus, 2 classes de collège et 3 classes de lycée.
Ah oui,
et les documentalistes.
D'accord.
Voilà.
Donc le lien, c'est les documentalistes. Là.
Tout à fait.
D'accord,
merci.
Une autre question ? Oui, derrière, là.
Moi, j'ai une question pour Monsieur Mallet. Oui, pour Monsieur Mallet. Vous avez parlé de l'émission, d'une espèce d'émission à la façon de masquer la plume. Vous pouvez nous en dire plus ? Sur les modalités, le public, etc.
Pour les animations, oui, voilà. Donc, en fait, bon, on va prendre un exemple. États-Unis, état des lieux. C'est une animation que j'ai fait le jour des résultats des élections américaines. J'ai vu beaucoup de monde. Je crois que les gens étaient un peu dépités. Ils avaient besoin de se réunir. Donc, la date était stratégique. Donc, voilà. Donc, c'était un thème. Alors, ce thème, je mélangeais films documentaires et films de fiction. D'ailleurs, il y a des films comme Cleveland contre Wall Street qui sont aussi entre les deux. Hein. La frontière est floue, hein, déjà, par définition. Il y avait un film sur les subprimes de fiction, cette fois-ci. Donc, je demande au public, par rapport à une sélection de films, de présenter un film et de donner son avis. Donc le lien avec le masque et la plume, c'est un peu une tribune où des gens vont donner leur avis et c'est structuré en fait. Je sais qui va parler de tel ou tel film en fait, et la personne doit donner son avis, c'est un petit peu le temps de parole des critiques du masque et la plume, en moins de 10 minutes. Alors par contre, les règles, c'est de présenter le film, de le contextualiser dans l'époque, dans la filmographie du réalisateur, de parler du postulat, enfin l'histoire, mais ne pas trop la dérouler, parce que ce n'est pas ce qui intéresse le public. Hein. Parce qu'il y a une partie qui a vu le film, il y a une autre partie qui n'a pas vu le film, et les gens qui viennent pour découvrir des œuvres, pour les visionner après. Donc si on leur dévoile la fin, on n'est pas dans un débat après projection. Et surtout, ce qui compte, c'est donner un ressenti. Est-ce que j'ai aimé le film ? Pourquoi il m'a bouleversé ? Qu'est-ce qui m'a touché ? Ce qui permet d'ouvrir ces séances à un public qui n'est pas forcément cinéphile. Je dis toujours par provocation, je n'ai pas envie d'avoir les trois premiers rangs, qui sont maintenant les trois derniers rangs de la Cinémathèque française, qui sont les catalogues vivants de films, mais on voit qu'il n'y a vraiment pas d'échange, pas de sentiments, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu le lien par rapport au masque et la plume. C'est sur des films qui sont imposés de créer des débats, des discussions. Et je peux vous assurer, quand il y a des désaccords sur un film, alors il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Tout avis doit être respecté, en fait. C'est pas du style, mais t'as rien compris au film, moi je vais te dire la vérité, ça c'est à proscrire. Parce que quand des gens s'investissent, quand on parle d'un film, c'est parler de soi aussi, hein. On parle de ses sentiments, donc je veux pas dire que c'est une thérapie de groupe, mais bon, voilà, on est quand même, la disposition d'ailleurs est en cercle, hein, ce qui permet les échanges et de voir les personnes qui s'expriment. Voilà, donc c'est structuré et puis ça permet aux personnes d'avoir un avis sur un film. Et comme je vous disais, oui, les désaccords aident à sortir le film, à le faire connaître. Et je prends un exemple, d'ailleurs, je peux prendre un exemple, je cite toujours, c'est Holy Motors, hein, c'était les coups de cœur de l'année, c'est le film de Léos Carax. J'avais deux personnes donc, qui dialoguaient entre elles, il y en a une qui connaissait Léos Carax, qui avait suivi son parcours, Mauvais sang, enfin les années 80, les cahiers, et une autre personne qui était vierge, qui ne connaissait pas du tout le réalisateur, qui n'avait rien vu de lui. Et c'est très intéressant de voir cette discussion entre les deux. L'un était pour, l'un était contre, et ça a créé une alchimie, en fait, de réflexion sur l'œuvre. Donc j'aime bien aussi des gens, et je me bats pour cette animation pour dire qu'elle est accessible. Bon, elle est accessible presque à tout le monde, dirons-nous, quand on est intéressé. Puis après, ça dépend les thèmes, si on peut orienter. Moi, j'avais fait Sam Peckinpah, mais là, j'avais ciblé un public qui connaissait bien, un public de 40-50 ans qui connaissait bien la carrière du cinéaste. Ou parfois, j'ai fait Jacques Tourneur, destiné à des jeunes. Bon, les jeunes, moi, c'est surtout 20-25 ans. Hein. C'est le public que j'essaie de cibler à travers mes animations. Donc, je leur ai dit, vous allez me donner votre avis sur La Féline. Ils sont ravis, en fait, hein, quand ils savent que leur avis va être pris en considération.
En fait, La Féline, voilà. C'est excellent. Moi, j'ai fait ça en quatrième dans la banlieue dure de Toulouse, Bellefontaine, Mirail, si ça vous dit quelque chose. Et effectivement, ça marche très bien. Le film sur les subprimes, c'est Margin Call de Chandor ?
Non, c'était un film qui est passé aussi sur le... qui n'est pas sorti en salle. Je ne sais plus son nom. C'était avec l'acteur qu'on voit dans Jeff Nichols, Michael Shannon.
Pointu de chez Pointu. Voilà, autre question ?
Excuse-moi, oui. Je voudrais juste continuer, pardon. C'est combien de personnes qui sont concernées ? Combien de personnes dans le public et combien d'émissions avez-vous, entre guillemets, émissions, avez-vous organisées ? Vous les organisez tous les combien ?
C'est une par mois. À un moment, j'ai tendance à en mettre deux donc, par mois, mais on m'a un peu freiné.
Donc les gens s'inscrivent et vous travaillez avec eux en amont ?
Non, en fait, c'est totalement libre. Hein. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a que les personnes qui présentent les films qui sont venues me voir en amont, en fait.
D'accord,
voilà.
C'est ça.
Et souvent, c'est moi qui propose les films. Alors, je cite souvent un exemple, j'avais fait c'était une collègue qui adorait Jack Lemmon. Alors voilà, ça y est, je me lance. Je suis pour son anniversaire, j'essaie de trouver une actualité en fouillant. Ça devait être les 85 ans de la naissance de Jack Lemmon. Enfin, j'avais trouvé ça pour la communication. Je crée l'actualité. Et j'avais dit, par exemple, le syndrome chinois. Je cite toujours cet exemple. J'ai une autre collègue qui est écolo. Je savais que le thème de la centrale nucléaire, de l'accident, allait la sensibiliser. Donc je trouve un lien entre une sensibilité d'un lecteur. Donc ça peut être un collègue, un collègue ou quelqu'un de mes relations privées, et que ça va déclencher, enfin la vision du film va déclencher une envie d'en parler. Alors parfois je fais du contre-emploi aussi, c'est comme au théâtre, hein. J'avais fait une séance spéciale documentaire, on avait fait un panorama de documentaire, et j'avais donné comme consigne, enfin prescription de visionner L'Esprit 45 de Ken Loach, à quelqu'un dont je connaissais les positions très libérales sur le plan économique. Mais j'avais envie, voilà, de voir comment il allait réagir à ce documentaire.
C'est
aussi intéressant.
Bien sûr.
Parce que bon, ça crée du débat. Hein. Oui. Quand j'ai fait le débat sur Ken Loach, j'ai demandé à des gens également qui n'étaient pas convaincus de venir. Quoi.
Donc c'est on va changer d'interlocuteur, c'est bien individualisé,
si vous voulez bien.
C'est bien individualiser votre travail.
Il faut connaître son public, ouais.
Une autre question, et peut-être un autre des participants pour changer, si c'est possible.
Bonjour, Mathias Paré, de la Bibliothèque municipale de Beaune, en Bourgogne. Je voulais revenir sur les web documentaires. Alors, j'ai peut-être une petite astuce pour vous, pour outrepasser le service informatique. Il y a des sites réducteurs d'URL, ou comme Bit.ly, par exemple, qui vous permettent donc de réduire l'URL et en retournant sur le site, vous avez accès aux statistiques de clics. Bon, après, on ne pourra pas voir le nombre de personnes qui a visionné ou pas, mais vous pouvez voir le nombre de personnes qui aura cliqué sur le lien. Je voulais vous remercier aussi d'avoir été franche par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Et je voulais savoir si vous avez regardé s'il y a des web documentaires qui peuvent être téléchargeables librement et dans quel cas... auquel cas, si vous pouvez les télécharger. Et en général, quels sont les droits qu'on peut avoir pour télécharger un web documentaire et du coup le garder en physique au sein de la bibliothèque?
Alors, je ne me suis pas du tout posé cette question au moment du développement du fonds, puisque le web documentaire, il y a web, donc forcément, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas garder dans son... Enfin, nous, on ne le garde pas dans notre base. Et c'est pour ça que ça demande un énorme travail de veille, hein, parce qu'il faut régulièrement supprimer. Donc non, on ne cherche pas à télécharger. Et pour la question des droits, comme c'est... en fait, on donne le lien directement sur Internet, donc il n'y a pas de droit à payer. On n'en fait aucune utilisation à l'intérieur de la bibliothèque.
Juste une petite info quand même. Il y a certains webdocs qui ont une version offline. Ça concerne surtout des... Enfin, pas que, mais surtout des serious games qui ont une version jeux vidéo, en fait. Comme, je ne sais pas si vous connaissez, jeux d'influence. Donc, oui. Il y a la version webdoc en ligne. Et la production a lancé une version où le webdoc sur la typographie, je ne me rappelle plus son nom.
Bah, je me demande si jeux d'influence...
Type Rider, voilà. Donc, il y a des versions où on peut... acquérir la version offline pour, par exemple, TypeRider, c'est assez diffusé sur des tablettes en bibliothèque, sur certains webdocs. Après, il y a aussi tout un courant, mais il faut un peu connaître, d'auteurs qui sont assez militants du libre. C'est le cas d'Eliott Lepers, qui est co-auteur, par exemple, de... décidément, aidez-moi, celui sur C'est un beau pays, merci. Et donc, C'est un beau pays, c'est un webdoc qui est fait avec un logiciel libre. Alors, il faut être un peu connaisseur, mais il propose de se réapproprier le logiciel que lui-même a créé, il me semble. Hein, Justine, c'est ça. Il a créé le logiciel pour faire le web documentaire et il donne accès au logiciel si d'autres souhaitent s'emparer de l'outil, etc. Mais voilà, c'est juste deux infos si ça vous intéresse.
Merci. Une toute dernière question ici.
Bonjour, Odile Granier de la bibliothèque de Bègle à côté de Bordeaux. Une question à nouveau pour Corinne Japin et sur la séance controverse. J'aurais voulu savoir, en dehors des séances scolaires que vous organisez, combien de participants aux séances mensuelles? Et ma deuxième question, c'était qu'est-ce que vous prenez en compte pour les interdictions au niveau des âges? Est-ce que c'est lors de la sortie en salle ou est-ce que c'est sur le DVD? Et si oui, l'interdiction de quelle nationalité? Puisque vous savez bien qu'entre les Américains et les Allemands, par exemple, il n'y a pas du tout les mêmes âges qui sont indiqués, et français, bien sûr. C'était mes deux questions. Merci.
Alors, je ne me rappelle plus de la première, excusez-moi.
Le nombre de participants pour les, le nombre pour de les participants. Séances controverses.
Alors, effectivement, donc, ça diffère d'une médiathèque à l'autre. Pour la médiathèque centrale, où il y a 200 places, c'est à peu près, on est en moyenne sur une cinquantaine, en fait, de participants. Il faut savoir que ce n'est pas une majorité d'ados qui participent à ces séances, même si on aimerait bien. Il se trouve que notre direction, elle veut qu'on les laisse ouvertes au tout public. Et c'est toute la difficulté pour nous que les ados reconnaissent que c'est un temps qui est pour eux, en fait, mais pas que. Et du coup, il y a énormément de jeunes adultes aussi, et puis même d'adultes hein, qui fréquentent aussi ces rendez-vous. Pour ce qui est des interdictions, c'est les interdictions cinéma, et on suit l'interdiction française. Voilà.
Allez, une toute dernière. Non, attendez le micro, s'il vous plaît. Il vous arrive. Et on clôturera après.
Je voulais savoir si vous aviez des difficultés avec les salles de cinéma ou la salle de cinéma parmi tous les intervenants. Parce que moi, je viens de prendre la vidéothèque et on m'a clairement fait comprendre...
Vous êtes où, madame ?
Je suis à Dreux. Qu'il ne fallait pas interférer avec le cinéma. Et alors, pourtant, au niveau arrêt essai, normalement, je ne risque rien.
Ben, tout à fait, en fait.
Ça va être le sujet, si j'ai bien compris, de la table ronde qui arrive après. Mais déjà, donner une réponse.
Oui, alors nous, on travaille en fait en collaboration avec le cinéma. La première directrice, on n'a pas réussi. Il y a eu un changement de directeur. Depuis, on arrive à développer des partenariats, notamment pour la fête du cinéma d'animation. Nous, on fait venir... la réalisatrice, et lui prend l'avant-première. Enfin, voilà, on essaie de travailler en complémentarité. Et il se trouve que pour la séance controverse, c'est vrai qu'on a le même animateur, pour le coup, puisque c'est l'animateur du ciné-club de la salle d'arrêt-essai. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, on tient à travailler ensemble. Donc voilà, on fait des concessions chacun, et on y arrive quand même. Et c'est important, il me semble, ouais.
Bien, effectivement, merci de la transition vers ce qui suit, hein, c'est formidable. Merci à vous tous. La France était vraiment un pays bigarré, et il y a vraiment énormément d'expériences, ça donne envie, et surtout de développer aussi la formation initiale des médiathécaires, parce que là j'ai l'impression que vous êtes sur des choses très personnelles qui vous tiennent à cœur, qui sont liées aussi à votre histoire personnelle, mais c'est vrai que développer la formation qui doit être la vôtre, vous facilitera la vie sur toutes ces questions, aussi bien sur celle de l'histoire du cinéma, de ce qu'est le cinéma en tant qu'art, que la question des ayants droit et des rapports avec la profession, puisque, comme disait Godard, le cinéma est un art, et c'est aussi et surtout et beaucoup une industrie. Merci.